Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un nouveau numéro du magazine Détour en histoire est en kiosque depuis quelques jours. Son dossier principal a pour titre Vatican, 2000 ans d'histoire secrète, de quoi donner des idées à Franck Ferrand de retour de Lille. Bonjour Franck.
Eh oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Il ne manquait que vous à cette braderie Céline, vous savez. Dans le numéro d'automne de Détour en histoire, il est question des Templiers, de Galilée, des Borgia, de la chapelle Sixtine dont on va parler, de ses mystères, des archives secrètes, bref, tout ce qu'on aime ici. Pour ma part, aujourd'hui, en compagnie de Serge Lega, je vous propose de revivre le bras de fer entre Jules II et un certain Michel-Ange. L'idée m'en a été soufflée par Quentin, qui nous écoute à Strasbourg. Quentin a 21 ans et il m'a l'air de déjà bien connaître le pontificat de Jules II.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Élise, posée sur la page Facebook de l'émission à propos de l'expression « le tour du Saint-Cordon », expression très populaire selon Élise dans la région de Valenciennes.
Oui, ce qui ne va pas nous éloigner tellement de Lille. Pour le moment, c'est à Rome que je vous donne rendez-vous au cœur de l'histoire de la plus fascinante des organisations humaines, le Saint-Siège.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il fut un temps où les grands artistes d'Italie avaient nom Léonard, Botticelli, Raphaël, Donatello, Bramante et Michel-Ange, bien sûr, c'était la Renaissance, époque propice au génie où aura prospéré le plus fascinant concours de grands talents et de grands caractères. Les talents, on les connaît, on les reconnaît. Les caractères, il arrive qu'on les omette. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux très fortes personnalités. Le pape Jules II, qui règne à partir de 1503 et qu'on dépeint comme un homme difficile, hautain, très ambitieux. Un pape habité par l'art, pourquoi pas, mais aussi par l'art militaire, ce qui est déjà moins habituel chez un pape. Le grand Giorgio Vasari, vous savez, le chroniqueur de cette époque unique, nous le décrit comme, je cite, « un esprit entreprenant et désireux de laisser des souvenirs éclatants de sa grandeur ». On peut dire que le ton est donné d'entrée de jeu. Alors l'autre forte personnalité, bien sûr, c'est Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo Buonarroti. Il a 28 ans quand Jules II monte sur le trône de Saint-Pierre. Et de lui, le successeur de Jules II dira « il est terrible, on ne peut pas traiter avec cet homme-là. » Eh oui, Michel-Ange est un génie, et le moins qu'on puisse dire est qu'il le sait. Alors on se dit qu'entre ces deux-là, les relations risquent d'être plutôt difficiles. Retour, si vous voulez bien, sur les origines de chacun d'eux. Le futur pape Jules II est né sous le nom de Julien della Rovere en 1443 dans une humble famille à Albisola. On est en Ligurie, on est à une cinquantaine de kilomètres de Gênes. C'est un village de paysans, hein, il faut imaginer ça. Dès son plus jeune âge, Julien della Rovere se tourne vers la religion chez les franciscains. Il suit d'ailleurs tout simplement la trace de son oncle, hein, qui s'appelle François et qui était franciscain. D'ailleurs, en 1464, François della Rovere est élu général des franciscains. Il va devenir cardinal 3 ans plus tard. Autant vous dire que lorsqu'il termine ses études de droit, il est fait à Toulouse d'ailleurs, ses études de droit. Lorsque Julien termine ses études de droit, sa voie est toute tracée. Il a devant lui, comme nous dirions nous aujourd'hui, il a devant lui un boulevard. Alors, sa carrière va être assez brillante. Il gravit les échelons plus vite que d'autres. 7 ans plus tard, voilà que tonton cardinal, François, devient le pape Sixte IV. Oh, bah alors là, pour le coup, François devient évêque de Carpentras, il ne tardera pas à être fait cardinal et dès l'année suivante, il mène ses premières missions de légat en Italie. En 1476, son oncle le nomme carrément légat d'Avignon et Julien della Rovere va pouvoir exercer son magistère dans toute son amplitude. Il va rentrer à Rome 6 ans plus tard. En 1494, le tonton meurt et c'est Innocent VIII qui lui succède. Julien della Rovere, à cette époque-là, a une influence considérable sur le nouveau pape. Il s'installe lui-même au Vatican et si l'on en croit par exemple la correspondance de l'ambassadeur de Gênes, voilà ce qu'on nous dit. Négocier avec le pape ou avec Julien della Rovere, c'est exactement la même chose. Vous voyez donc qu'il est devenu une sorte de pape bis d'une certaine manière, si j'ose dire. Innocent VIII meurt à son tour en 1492. Julien Della Rovere est candidat, bien entendu, au trône de Saint-Pierre, mais il n'est pas élu. Et ça, pour lui, c'est un coup d'arrêt dans sa carrière. On peut dire que son ascension est stoppée net après la mort d'Innocent VIII. Le nouveau pape, c'est Alexandre VI, un nom qu'on connaît bien grâce aux deux séries télé depuis quelque temps, qu'on voit quasiment en boucle maintenant. Alexandre VI, qui est Borgia, bien entendu. C'est le début pour Julien Della Rovere, c'est le début d'une véritable traversée du désert. En 94, il est obligé de fuir vers la France. D'ailleurs, il va se rapprocher du roi Charles VIII, qui compte bien aller faire valoir ses droits sur Milan et sur Naples. Ça va être la première guerre d'Italie. L'année suivante, Julien quitte Naples avec l'armée française et il se retire en Avignon. On peut dire qu'il est devenu à ce moment-là la bête noire du pape Borgia. Mais il lui faut composer. Voilà ce qu'écrit Yvan Cloulas. Plus personne ne peut s'opposer dans le sacré collège à la puissance des Borgia. Le nombre de leurs créatures vient de s'accroître de 9 cardinaux recrutés parmi les familiers pontificaux et le représentant des puissances qui soutiennent le pape. L'argent versé par les nouveaux promus sert à lever des troupes pour César. César Borgia, le fils du pape, prépare sa rentrée sur la scène internationale. Il est prêt à repartir pour le royaume de Naples, décidé à marchander à bon prix l'aide qu'il apportera aux Français, peut-être même à dénoncer son alliance. Le 18 août 1503, c'est une date que connaissent les spécialistes de l'histoire de la papauté. Bien sûr, c'est la mort d'Alexandre VI. Plusieurs versions circulent sur son décès. Est-ce que sa nourriture aurait été empoisonnée? Est-ce que tout simplement elle était avariée du fait de la chaleur? Est-ce qu'il aurait subi les conséquences, les effets d'une maladie consécutive à la malaria? Toujours est-il donc qu'il meurt. Et le 22 septembre 1503, on élit un nouveau pape. C'est un vieillard. C'est Pie III. Oh, ça, il va faire un petit pontificat. Pie III, 26 jours. Un des plus courts de l'histoire. C'est pire que certains de nos ministres. Enfin non, d'ailleurs. Pie III meurt le 18 octobre 1503 et le 1er novembre, le cardinal Julien Della Rovere est élu dès le premier tour de scrutin. C'est lui qui devient pape. Alors là, attention, il a 59 ans et il va régner sous le nom de Jules II. Pourquoi Jules II? Ben, d'abord en souvenir de Jules Ier, un pape du 4e siècle, mais surtout en souvenir de Jules César. Et par ricochet, c'est un petit peu la manière qu'a trouvé le nouveau pape d'effacer dans la mémoire des Romains le souvenir d'un autre César, César Borgia, bien entendu. Jules II annonce la couleur, il veut être un pape de la grandeur. Alors en face de lui, il y a l'autre bonhomme. Il faut peut-être que je vous raconte un peu son parcours à lui aussi avant leur rencontre. C'est Michel-Ange et nous y venons dans un instant.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film L'Extase et l'Agonie, prologue composé par Jerry Goldsmith. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la relation entre Jules II et Michel-Ange.
Alors, voyez un peu à qui on a affaire du côté de Jules II. En face, c'est la génération suivante. Il a 32 ans de moins que le nouveau pape, Michel-Ange. Lui est né, c'est tout le paradoxe de cette histoire, lui est né dans une bonne, même dans une très bonne famille, les Buonarroti Simoni. Il est né en 1475 à Caprese, donc entre Rome et Florence. Son père, Leonardo Buonarroti, descend d'une des plus anciennes familles de Toscane et il est le premier magistrat de Caprese. Michelangelo est le benjamin de 3 enfants qui sont tous des garçons. Ses 2 grands frères ont été placés, on va dire, dans les affaires. Et pour Michelangelo, eh bien, la voie est également toute tracée. Il devrait être, c'est en tout cas ce que son père aimerait, il sera au moins secrétaire d'ambassade, peut-être même un jour ambassadeur. Eh ben oui, mais seulement voilà, dès son plus jeune âge, Michel-Angelo manifeste un don très singulier pour le dessin et bientôt pour la sculpture. Et son père, la mort dans l'âme, hein, disons-le, finit par confier son fils à l'atelier d'un maître, Domenico Ghirlandaio pour ne pas le nommer. un peintre donc, et ça va être tout l'apprentissage de Michelangelo, qui est tellement extraordinaire qu'il suscite d'ailleurs la jalousie de ses camarades. D'ailleurs, il va se prendre un coup de poing dans le nez qui va faire qu'il aura pour le restant de ses jours le nez cassé. Vous savez, Ghirlandaio est très impressionné par son travail. Il le recommande à Laurent le Magnifique, hein, Laurent de Médicis, qui le fait venir carrément chez lui au Palais Médicis. Et pendant toute cette période, on est là en 1490-92, on va voir Michel-Ange copier les antiques de la collection Médicis. On n'a malheureusement pas de... On n'a pas de trace de cet extraordinaire travail qu'a dû effectuer le tout jeune sculpteur, avec ce don qui éclate, qui explose, si je puis dire, sous les yeux de tous ceux qui peuvent voir. Il va voyager par la suite, compléter sa formation et réaliser ses sculptures grandioses, ses corps sublimes, pleins d'une force vitale extraordinaire. Et voilà le moment de la rencontre. En mars 1505, le nouveau pape, donc, Jules II, fait appel à Michel-Ange pour réaliser son tombeau dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Michel-Ange prévoit une pyramide sculptée qui portera 42 figures. Vous imaginez un petit peu l'ampleur de l'œuvre. Il ne perd pas de temps. Hein. Le voilà parti pour Carrare pour choisir les blocs de marbre dans lesquels il va, sculpter. Non, desquels il va faire surgir cette espèce de vie superlative qu'il possède, qu'il a dans son ciseau d'une certaine manière. Du coup, Jules II va demander va en savoir davantage et il suit lui-même l'arrivée à Rome des blocs de marbre, hein. Mais c'est un projet qui est mal parti parce qu'on a fait remarquer au pape que la construction d'un mausolée risque d'entraîner l'effondrement de la basilique Saint-Pierre. Et du coup, Jules II se dit que cette basilique, elle ne lui convient plus. Il faut quelque chose de beaucoup plus grand. Il va commander une nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome. C'est celle que nous connaissons aujourd'hui. Il ordonne donc la démolition et il va confier les travaux du nouvel édifice à celui qui n'est autre que le principal rival de Michel-Ange, c'est Bramante. Voilà ce que nous dit Ivan Cloulas. Bramante revit à la faveur du pontife à qui il vante son plan pour Saint-Pierre. Je prendrai les voûtes du Panthéon et je les élèverai sur les arcs de la basilique de Constantin. Vous imaginez l'ampleur du projet. Le projet de l'église en croix grecque, ordonné autour d'une vaste coupole centrale, flanquée de petites coupoles sur les nefs, constitue en effet un édifice parfait, comme l'avaient rêvé les architectes florentins. Pour Jules II, ce sera donc d'abord la basilique et puis le mausolée. Il n'en a pas pour autant perdu l'idée ni l'ambition, bien entendu. Du coup, quand Michel-Ange revient de ses 8 mois à Carrare, où il est allé chercher ses blocs de marbre, il découvre que le pape a ordonné la construction de cette basilique qui va complètement retarder son propre chantier. Il est furieux. Lui, il a déjà investi dans le marbre. Il a organisé tout un atelier à ses frais. Il a engagé tous ses aides. Vous imaginez ce que c'est. Vous savez, quand vous avez une grande commande publique comme ça, vous transformez votre vie, votre organisation. Puis on vous dit, ah ben oui, non, mais c'est pas pour tout de suite. Ça, ce sont les caprices des papes, vous imaginez bien. Première dispute entre Jules II et Michel-Ange. En avril 1506, au moment où les blocs arrivent à Rome, et l'artiste a donc emprunté 200 ducats pour régler tous les frais, il demande le remboursement au moins de tous ses frais. Seulement, le pape n'a pas d'argent à lui donner, puisqu'il est en train de lancer un autre chantier, que par ailleurs il est en train de préparer une grande campagne militaire. Michel-Ange dit alors au chambellan pontifical: « Va dire au pape que quand il aura besoin de moi, il n'aura qu'à venir me chercher où il pourra me trouver. » Et la veille de la pose de la première pierre de la nouvelle basilique, le 17 avril 1506, Michel-Ange rentre chez lui, il vend tout son mobilier et le voilà parti pour la Toscane. Il rentre chez lui, si je puis dire, à Florence. Le pape envoie des hommes le chercher, mais Michel-Ange refuse de revenir à Rome malgré la menace d'une disgrâce. Alors Michel-Ange va écrire au pape, il lui écrit: « En récompense des bons services que j'ai rendus à votre sainteté, je n'ai pas mérité d'être jeté à la porte du palais comme mauvais drôle. Du moment que votre sainteté ne veut plus entendre parler du monument funéraire, je suis délié de mes engagements et n'ai nulle envie d'en contracter de nouveau. » Voilà, qu'on se le tienne pour dit. Alors le pape entre à Bologne le 11 novembre 1506, Bologne reprise aux Français. Il veut ériger une statue à son effigie sur la façade du palais du gouvernement de Bologne, une grande statue en bronze. Il demande à Michel-Ange de la réaliser alors que l'artiste est toujours en fuite. Vasari nous raconte l'audience plutôt houleuse du 29 novembre 1506. Arrivé devant Jules II, Michel-Ange se mit à genoux et le pape, le regardant de travers comme indigné, lui dit « Au lieu de venir auprès de nous, tu as attendu que nous allions te chercher ». Michel-Ange va quand même mettre un genou à terre, un peu, faut lui demander trois fois. Hein. Enfin bon, il demande pardon à mi-voix. Finalement, le pape va lui pardonner et en 1508, la statue est achevée. Elle sera détruite malheureusement en 1511. Pour l'instant, Jules II et Michel-Ange n'ont donc pas réalisé de grandes choses ensemble. Ça va changer. Ça va même changer dans des proportions tout simplement phénoménales.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au pape Jules II et à Michel-Ange.
Alors, ce pape, vous l'avez compris, a de très grandes ambitions. Il veut transformer, transfigurer Rome. Ce qu'il fait, son plus grand chantier, celui qui pour lui doit être un peu son chef-d'œuvre, c'est la décoration, la redécoration de la chapelle Sixtine. Alors tout à l'heure, avec Raphaël Pic de la rédaction de Détour en Histoire, nous reviendrons sur les origines de cette chapelle Sixtine. Toujours est-il qu'au moment où il faut choisir le peintre qui va orner de fresques cette extraordinaire voûte, Michel-Ange ne se sent pas visé, si je puis dire. Lui, c'est l'homme de la sculpture, n'est-ce pas ? L'homme des statues. Sa connaissance de la fresque se limite à son apprentissage de jeunesse chez Domenico Ghirlandaio, en fait, c'est bon. Et puis, c'est un chantier titanesque. Hein. La chapelle fait 40 mètres de long, 14 de large. La voûte s'élève à 20 mètres de hauteur. Hein. Et elle se déploie sur une surface de 1000 mètres, vous imaginez ? Eh ben oui, mais le pape, lui, se dit que ce sera Michel-Ange et personne d'autre. Plus l'artiste s'excusait, nous dit Vasari, plus le désir du pape devenait impérieux, impétueux comme il l'était dans toutes ses entreprises. Bon, finalement, Michel-Ange, devant les sommes énormes qu'on lui promet et le prestige d'une telle commande, finit par accepter. Mais il est très ambitieux. Il exige d'ajouter 9 fresques à celles qui étaient prévues, consacrées à la jeunesse, soit au total 343 personnages à peindre. En fait, il veut peindre, c'est aussi simple que ça, toute la voûte, descendre jusqu'aux fenêtres, entourer tout ça. Michel-Ange va détruire le premier échafaudage qui avait été installé, qui était suspendu au plafond par des cordes qui donc traversaient la voûte. Lui, il fait supprimer tout ça et il fait monter en revanche un échafaudage qui lui permettra de travailler sur l'ensemble de la voûte. Il inventa lui-même un échafaudage qui montait depuis le sol jusqu'au plafond, raconte Marcel Brion, que j'aime à citer dans cette émission. Une solide et légère armature de poutres couronnées d'un plancher sur lequel il pouvait aller et venir sans peine. Le 10 mai 1508, Michel-Ange annonce qu'il vient de signer le contrat. Mais ça n'est pas facile de travailler, évidemment. Il est debout sur son échafaudage, il est obligé de se tordre dans tous les sens pour peindre. D'ailleurs, il va peu à peu se rendre malade, tout simplement, à travailler dans ces conditions-là. Et puis, il faut vous dire que, j'en ai touché un mot au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'il a très mauvais caractère, notre bonhomme, et qu'il ne supporte pas les aides qui ne font pas le travail comme prévu. Bon, il les renvoie l'un après l'autre. Vasari nous dit « Enfin, Michel-Ange fit les cartons pour la chapelle et manda plusieurs peintres de Florence, dont il fut si peu content qu'il les remercia et résolut de peindre seul ce grand ouvrage. » Alors, dès le début, dès les premières semaines du chantier, il y a une espèce de mousse verdâtre qui vient dévorer les couleurs. Michel-Ange est littéralement désespéré. Il pense qu'il ne pourra jamais continuer son travail. Il songe à abandonner. En fait, c'est sa chaux qui est trop liquide. Il faudrait la rendre plus sèche. En plus, disons-le, le pape ne verse pas l'argent à temps, ou en tout cas pas exactement comme prévu, à cause des fameuses campagnes militaires tellement coûteuses. Et l'artiste va devoir régulièrement quémander, menacer de s'en aller s'il ne touche pas son argent. Michel-Ange s'inquiète de ne pas aller assez vite. Il écrit à son père en 1509 « C'est dû à la difficulté du travail même et au fait que ce n'est pas ma profession. Par conséquent, je perds beaucoup de temps. Que Dieu me vienne en aide !» Mais le pape, lui, ne veut rien savoir. Il veut visiter le chantier. Alors, on a envie de dire, ça ferait un joli film. Il a été fait, bien entendu. Ça ferait une jolie pièce de théâtre. Ça a été fait également par Brecht, hein, bien entendu. Vasari nous dit dans ses Vies des artistes, le pape qui voyait souvent Michel-Ange lui dit un jour « Enrichis-moi la chapelle de couleurs et d'or, car elle est trop pauvre. » Et Michel-Ange lui répondit avec familiarité « Saint-Père, dans ce temps-là, les hommes ne portaient pas d'or sur leurs vêtements, et ceux qui sont peints là-haut étaient des saints et n'avaient aucune richesse parce qu'ils les méprisaient. » D'ailleurs, quand Jules II demande quand Michel-Ange finira son travail, l'artiste lui répond « Quand je pourrai ». Ah, vous imaginez la réaction du pape, « Quand je pourrai, quand je pourrai ». Enfin, est-ce que c'est une réponse ? Michel-Ange vend les meubles, prépare ses bagages, s'en va, quitte Rome, et finalement il reçoit quand même l'argent qui était prévu, 500 ducats. Alors bon, il fait demi-tour et il revient travailler, il remonte sur son échafaudage qui sera enlevé le 19 septembre 1510. Et alors ce jour-là, quand on enlève l'échafaudage, on va pouvoir admirer, que dis-je, on va pouvoir contempler les prodiges que Michel-Ange, là-haut sur cette voûte de la chapelle Sixtine, a littéralement fait exploser. C'est extraordinaire ce qu'on a sous les yeux. Personne de mémoire d'homme n'avait encore jamais rien vu de semblable. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Franck.
On va revenir dans le détail de toute cette histoire de la Sainte-Chapelle. Bonjour Raphaël Pic.
Bonjour Franck.
Je parle de Sainte-Chapelle, de la Chapelle Sixtine, pardon, qui est une Sainte-Chapelle du reste. Mais on va revenir sur cette Chapelle Sixtine avec vous dans un instant. Et puis sur tout le reste, parce que cette collaboration, si je puis dire, entre Jules II et Michel-Ange, elle nous réserve pas mal de surprises.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La Chapelle Sixtine sur Europe 1, un extrait de la bande originale L'Extase et l'Agonie, un film qui a été réalisé par Carol Reed, et La Chapelle Sixtine est composée par Alex North.
Et voilà, Carol Reed, 1965, un grand film qui est très beau, qui s'inspire d'ailleurs assez librement de la célèbre pièce de théâtre. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Quentin, qui a 21 ans, qui habite à Strasbourg, qui nous suggérait de parler de ce sujet, et il parle de Jules II en disant son pontificat, durant lequel les talents ont cohabité et transcendé les valeurs artistiques, incarne presque physiquement l'esprit de la Renaissance, mais plus que le mécène, c'est également l'homme politique qu'il serait bon d'étudier, dans la mesure où il fut le premier pape à vouloir faire des états pontificaux une puissance à part entière, qui ne serait sous la coupe de personnes. Et c'est vrai que ce pape était un homme politique, si je puis dire. C'est son maître des cérémonies, Paris de Gracie, qui rapporte, je le cite, que Jules II rumine ses projets longuement dans ses méditations silencieuses avant de les mettre à exécution avec une énergie de fer. Absorbé dans ses pensées, il ne plaisante que très rarement. Il ne connaît ni arrêt ni repos plus que d'un prêtre, nous dit cet homme qui l'a par ailleurs si bien connu. Il a l'étoffe d'un roi, et le terme de souverain pontife recouvre parfaitement l'ambition qu'il nourrit de commander au prince de la terre entière. Ce roi, ce souverain à part entière, devait trouver des artistes à sa mesure. Alors, la chance a voulu que le siècle lui en fournit, Serge Lega. Il y en avait quantité.
Ah oui, il y avait pléthore de talents à Rome à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on peut dire en plus que la papauté est devenue un pôle d'attraction à cette période. C'est-à-dire que tous les artistes de l'Italie convergent vers Rome. Autant au siècle précédent, des villes comme Florence gardaient encore leurs artistes. À cette période, au début du XVIe, il y a vraiment une attraction autour du Vatican et de la papauté.
Il faut dire que cette cour pontificale, portée à des sommets par ce fameux Alexandre VI Borgia dont je parlais, mais qui va monter encore d'un cran, si je puis dire, avec Jules II, est la plus, peut-être pas la plus puissante, mais en tout cas la plus riche, la plus somptueuse des cours d'Europe à l'époque. C'est vers elle qu'accourent tous les artistes en veine de commande, bien sûr,
bien
entendu.
C'est le phénomène du mécénat qui joue tout simplement.
Bien
et
sûr.
Le côté fastueux de la papauté joue justement. Alexandre VI, c'est une personnalité qui, avec ce tempérament très espagnol, aime le luxe, et un luxe qui doit être révélateur d'une puissance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pape fait réaménager pour lui des appartements au Vatican qui doivent être les appartements qui sont les appartements montrant la puissance de cette famille.
Alors parmi les portraits qui sont présentés dans ce beau numéro du magazine Détour en Histoire, il y a le portrait du pape Jules II par Raphaël, qu'on peut voir à la Galerie des Offices à Florence. Et alors le personnage qu'on découvre, Raphaël Pic, est une espèce de vieillard exsangue. C'est pas du tout l'image qu'on pourrait avoir, hein, de ce pape tellement caractériel, tellement fort. fort, capable de tenir tête à Michel-Ange et vice-versa.
Oui, mais c'est effectivement un personnage de grande personnalité qu'il a dû mûrir dans son combat contre son prédécesseur qu'il haïssait, Alexandre VI. Et il voulait sans doute faire aussi bien que lui dans le domaine du mécénat, Alexandre VI ayant convoqué Pinturicchio pour faire ses appartements. Lui-même devait faire au moins aussi bien, donc appeler des gens supérieurs encore comme Michel-Ange.
Alors, la fameuse chapelle à laquelle Jules II convoque littéralement Michel-Ange, cette chapelle Sixtine, elle porte ce nom du fait de l'oncle même de Della Rovere, du fait de l'oncle de Jules II qui s'appelait Sixte IV en fait.
Absolument, là, c'est Sixte IV qui a décidé de construire la chapelle Sixtine à une époque où Michel-Ange avait 6 ans, c'est-à-dire c'est ça, en 1400, hein, ouais, alors... ou 2 ans même, 1477. Et ce qu'on oublie souvent, on associe toujours la chapelle Sixtine à Michel-Ange. On oubliait de dire qu'il y avait d'autres peintres avant. Sixte IV, lorsqu'il a voulu faire un programme iconographique, a fait venir des peintres de Florence, car c'était la ville où se trouvaient les meilleurs peintres, et il a convoqué Perugin, Botticelli, Ghirlandaio, en leur demandant d'illustrer les vies du Christ et de Moïse sur les parois latérales et également au fond sur l'autel. Et lorsque plus tard on a demandé à Michel-Ange de faire le jugement dernier au fond, on n'a pas hésité à effacer des fresques de Perugin, qui était en 1500 considéré comme le plus grand peintre d'Italie. C'est un peu comme si aujourd'hui, on disait à l'opéra les fresques de Chagall.
Oui, on n'avait pas beaucoup de respect pour ce qui existait.
Voilà, c'est comme si on disait Jeff Koons, c'est le grand artiste d'aujourd'hui, les fresques de Chagall, on les efface, on recommence.
Oh là, mon Dieu, à Dieu ne plaise. Voilà. Alors Serge Legas, on n'ira pas plus loin, j'ai pas envie de créer des comme ça, dès ce début de semaine, de vraies polémiques à l'antenne. Quand Jules II s'intéresse à Michel-Ange, le jeune homme est bien sûr déjà connu, mais enfin il n'a rien réalisé de si extraordinaire encore.
Oui, c'est vraiment le pontificat de Jules II qui apporte à Michel-Ange cette puissance qu'il attendait, puisque Michel-Ange a besoin justement de personnages avec cette puissance et cette force qui est celle du pape.
Alors ce qui est drôle, c'est que Michel-Ange ait commencé par travailler à ce mausolée, hein, cette espèce de tombeau de Jules II.
C'est extraordinaire, je dirais que voilà un autre sujet d'émission, mon cher Franck, qu'il faudrait, puisque le tombeau de Jules II, à lui seul, c'est véritablement une épopée tout à fait étonnante, puisque Michel-Ange a quand même travaillé 40 ans sur ce tombeau, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, il commence les projets en 1505 et le tombeau ne sera achevé qu'en 1545. Et Michel-Ange dira à ce moment-là que ce tombeau reste le drame de sa vie, puisque le projet final, qui n'est d'ailleurs même pas à Saint-Pierre de Rome, beaucoup de gens le cherchent dans la basilique Saint-Pierre alors qu'il est en fait dans l'église Saint-Pierre aux Liens, c'est totalement un projet qui est à l'inverse de ce que Michel-Ange avait prévu au départ. Vous parliez d'une sorte d'énorme pyramide, tout compte fait, c'est un tombeau pariétal, absolument ce que Michel-Ange ne souhaitait pas. D'ailleurs, à la fin, les sculptures sont laissées pour la plupart à des élèves de Michel-Ange. Michel-Ange réalise relativement peu d'œuvres, en dehors du Moïse, qui sera lui utilisé pour ce tombeau final et qui avait été sculpté beaucoup plus tôt.
Alors, le pape a compris à qui il avait affaire. Malgré le tempérament déplaisant de Michel-Ange, il tient beaucoup à ce qu'il continue de travailler pour lui et notamment à ce qu'il réalise cette extraordinaire voûte de la chapelle Sixtine. Alors, on ne va pas revenir dans le détail aujourd'hui sur tout le travail de cette voûte, puisqu'on l'avait fait ensemble, Serge. Hein, j'ai regardé il y a à peu près 2 ans qu'on en avait parlé.
Crois, bon, oui.
On avait, à l'occasion d'ailleurs de la réinauguration, on avait eu l'occasion d'évoquer pas mal de choses. Simplement, il faut peut-être dire un mot des conditions de travail de Michel-Ange, qui est quasiment seul là-haut.
Oui, ce qui est complètement étonnant, puisque quand, par exemple, Raphaël réalisera lui également, à la demande de Jules II, les chambres du Vatican, les fameuses stanze, Raphaël a à côté de lui un atelier absolument colossal. Au contraire, quelqu'un comme Michel-Ange, avec ce caractère très particulier qui est le sien, travaille pratiquement seul. Alors n'exagérons pas, il n'est pas seul, il a évidemment quelques apprentis qui l'aident pour les parties techniques, préparer les couleurs, préparer les fonds, mais on peut vraiment dire que les figures de la Sixtine sont de la main de Michel-Ange. C'est une des chapelles les plus autographes de toute l'histoire de la peinture.
À travailler tordu, j'ai attrapé un goitre, écrit Michel-Ange dans un de ses fameux sonnets, comme l'eau en procure au chat de Lombardie, à moins que ce ne soit de quelque autre pays, et j'ai le ventre à force collé au menton, ma barbe pointe vers le ciel, je sens ma nuque sur mon dos, j'ai une poitrine de harpie, et la peinture qui dégouline sans cesse sur mon visage en fait un riche pavement, mes lombes sont allées se fourrer dans ma panse, faisant par contrepoids de mon cul une croupe chevaline, et je déambule à l'aveuglette, j'ai par devant les l'écorce qui va s'allongeant, alors que par derrière elle se ratatine et je suis recourbé comme un arc de scierie.
Oui, on a même un petit croquis que Michel-Ange aurait fait de lui-même, une sorte de caricature, d'auto-caricature, et où il se représente tout à fait dans cette sorte de corps malmené par le travail. Il faut quand même imaginer une chose, Michel-Ange travaille en grande partie allongé, puisque quand il réalise ses fresques, il est couché, il n'a donc en plus absolument pas le recul nécessaire qui sera celui par la suite des fidèles et de nos jours des spectateurs qui voient cette chapelle. Il faut quand même repositionner le véritable cadrage qui est celui du travail, et Michel-Ange réalise sans aucun doute un tour de force d'autant plus exceptionnel que Michel-Ange, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez Franck, a toujours voulu être sculpteur. La peinture pour lui est un art qui ne relève pas de son véritable talent, et au fond pour les gens la Sixtine est ce qui a permis de passer à Michel-Ange à la postérité.
Jules II verra pas le travail terminé finalement.
Jules II le verra puisqu'il est là au moment de l'inauguration, puisque la chapelle est à peu près inaugurée un an, quelques mois avant la mort de Jules II. Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est que c'est un triomphe. Là, Michel-Ange connaît un véritable triomphe.
Personne ne renacle.
Même les choses les plus étonnantes, puisque c'est quand même, si on la regarde bien, une voûte qui est absolument ponctuée de nudité masculine. Les fameux inoudis qui n'ont aucune vraie justification religieuse. On peut y voir des sortes d'anges, mais ça, c'est quand même avoir une version très, très, très optimiste.
Oui, il y a quelque chose
de
d'un
la
peu
lecture
païen
des...
dans tout
c'est
ça.
C'est totalement païen.
Il y aura plus tard un scandale encore plus grand, c'est celui de la grande fresque, alors qui est au fond de la chapelle,
du mur d'hôtel.
C'est la fresque du jugement dernier, qui elle sera commandée plus tard.
Alors qui est commandée beaucoup plus tard, il y a pratiquement 20 ans d'écart entre les deux. Et là, par contre, le pape qui l'a commandée ne la verra
alors,
pas
c'est
cette
là, c'est
fresque.
Ça, c'est
voilà.
Ce souvenir-là
c'est
que j'avais,
Clément
oui.
VII qui commande le mur, et c'est en fait Paul III qui l'inaugurera et qui soutiendra Michel-Ange contre là beaucoup d'avis, puisqu'on trouve cette fresque absolument scandaleuse. On trouve là les nudités scandaleuses qui n'avaient pas été le cas au moment de l'inauguration de la voûte de la Sixtine. Et beaucoup demandent à ce qu'on détruise ce mur qui est considéré comme absolument impropre à une chapelle, surtout une chapelle pontificale.
On les rhabillera les nudités. Ça,
oui,
c'est
alors ça c'est sous Paul IV. On continue dans l'énumération des papes. C'est le pape Paul IV qui a demandé à un artiste qui était lui-même un élève de Michel-Ange, Daniele da Volterra, de rajouter des culottes. Et voilà pourquoi les Italiens, qui ont toujours beaucoup d'humour, vont à tout jamais surnommer Daniele da Volterra il braghettone, le culottier, celui qui a rajouté des culottes sur Michel-Ange.
Alors, nous allons laisser quelque temps Michel-Ange et Jules II pour voguer vers d'autres règnes et vers d'autres artistes, car s'il y a une grande tradition dans le Saint-Siège, au Vatican, c'est précisément celle du mécénat. Il y a eu comme ça des relations extraordinaires entre plusieurs souverains pontifes et plusieurs grands maîtres. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, cet après-midi, on parle des splendeurs artistiques du Vatican avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Raphaël Pic, journaliste au magazine Détour en Histoire. Le numéro 6 est en kiosque actuellement avec le dossier principal, le Vatican, 2000 ans d'histoire secrète. Et puis Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Alors c'est fascinant hein, ce Vatican. Non seulement tout ça est absolument splendide, je suis en train de feuilleter tout le chapitre de du magazine consacré à la chapelle Sixtine, c'est magnifique. Mais alors on a envie de dire que le décorum actuel se marie assez bien avec tout cet art et ça fait presque partie de la magie des lieux. Là j'ai une photo absolument incroyable où on voit justement cette extraordinaire fresque du mur d'autel de la chapelle Sixtine avec ce jugement dernier aux couleurs fortement ravivées. D'ailleurs ça c'est l'objet d'une véritable polémique, mais ça nous entraînerait loin. Et alors on a devant le maître-autel, tout en bas, en train de dire un discours, le pape honoraire Benoît XVI. Et alors il est tout petit par rapport à l'immensité des figures. On a l'impression que tout ça est une sorte de domaine à une autre échelle, Serge Lega. Je crois que ce qui frappe le plus lorsqu'on visite le Vatican, c'est l'échelle d'une manière générale.
Oui, et puis ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est d'imaginer que quand on est au Vatican, on a toujours l'impression que l'on a la chapelle Sixtine, bien sûr, que l'on a les chambres du Vatican de Raphaël, mais on oublie tout ce qui est le reste, c'est-à-dire l'extraordinaire collection du Vatican. Le Vatican, c'est quand même 11 musées qui sont des musées qui sont tous d'une richesse. Les plus belles collections d'antiques sont au Vatican. On a quand même tout ce qui est la base même de la culture occidentale, avec les sculptures comme ne serait-ce que l'Apollon du Belvédère, le torse du Belvédère, le Laocoon et que sais-je encore. On a des musées tout à fait fabuleux qui sont d'ailleurs, hélas, ça c'est un peu les contraintes de nos jours, faute de gardiens parfois fermés au public. Par exemple, un merveilleux musée d'art religieux moderne dans les anciens appartements Borgia dont on parlait tout à l'heure. C'est un moyen de voir ces appartements quand le musée est ouvert. Donc c'est un ensemble absolument exceptionnel par sa richesse et par son côté fastueux.
Ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas attendu évidemment Jules II pour voir les papes financer l'art au Vatican, loin de là. Le mécénat des Borgia, Raphaël Pic, a été très important en fait. Ils étaient, de ce point de vue-là, ils étaient même assez...
Absolument, on associe souvent Alexandre VI à Pinturicchio, qui lui a peint les appartements Borgia. Mais il y avait également un sculpteur comme Andrea Bregno. Il y a des peintres qui ensuite sont allés en Espagne, comme Paolo di San Leocadio, donc qui a essaimé pour développer la peinture italienne dans d'autres régions. Et dans le cas des Borgia, ensuite toute la famille. C'est vrai qu'à cause de Victor Hugo, on a un portrait un petit peu sinistre de Lucrèce. Mais on doit rappeler que Lucrèce Borgia, fille d'un pape tout de même, a été également une grande mécène de la Renaissance auprès des peintres et également des écrivains.
Quel est le plus ancien des décors renaissants du Vatican?
Le plus ancien est sans aucun doute une très jolie chapelle qui est la chapelle Nicoline, puisque là elle est faite pour un pape qui s'appelle Nicolas V. Et c'est vraiment Nicolas V qui est le pontife au XVe siècle. D'abord c'est le grand pontife du retour à Rome, c'est la fin de la crise des papes en Avignon, c'est la fin du grand schisme d'Occident.
Ils sont de retour d'Avignon. Oui.
Ils sont vraiment de nouveau à Rome et Nicolas V c'est lui qui relance le chantier qui est le chantier du Vatican. Il faut pas oublier une chose, c'est que le lieu de résidence des papes avant le Vatican, c'était le palais du Latran. Et c'est vraiment à partir de Nicolas V que le Vatican trouve son importance en tant que tel et devient le lieu de résidence de la papauté.
Alors on parle toujours, parce qu'elle est dramatique, de la relation entre Jules II et Michel-Ange. Et l'on oublie une autre osmose entre deux grands esprits, un grand pape et un grand artiste, c'est Léon X. Avec Raphaël.
Alors là, on peut parler d'un coup de foudre. C'est exactement l'inverse des rapports très violents qui existaient entre Michel-Ange et Jules II. Et le coup de foudre commence très tôt, puisque Jules II lui-même est déjà, c'est lui qui demande à Raphaël de décorer les chambres du Vatican. Alors là aussi, c'est assez extraordinaire. Raphaël, tout à l'heure, nous parlait des destructions de Pérugin à la chapelle Sixtine. Bien là, on a la même chose pour les chambres du Vatican. Quand Raphaël commence à travailler, il travaille...
Vous ne parlez
en
pas
fait,
du même Raphaël.
Voilà, là on est... Pardon. Avec
là,
Raphaël.
Là, c'est l'artiste
Lo,
cette fois, oui.
Raphaël. Et donc lui travaille sur un chantier qui avait déjà été commencé par des peintres importants, entre autres le Vénitien Lorenzo Lotto. Et on détruit tout ce qui avait été fait. Jules II ne fait jamais dans la dentelle, donc on détruit tout ce qui avait été réalisé. Et avec Jules II, Raphaël commence à travailler. Ensuite, à la mort de Jules II, c'est le pontificat de Léon X. Michel-Ange imaginait une revanche, puisque Léon X est un Médicis. Michel-Ange est florentin, il se disait que cette fois-ci à Rome, il aurait donc tous les moyens d'avoir les commandes. Mais c'est Raphaël qui devient le maître de Rome. Et alors là, c'est une osmose parfaite. Raphaël correspond exactement à ce que souhaitait Léon X. Il sait glorifier la papauté, il sait mettre en valeur un art serein, un art idéal, pas du tout tourmenté comme celui de Michel-Ange. Et c'est vraiment la plénitude total, et Léon X va vraiment trouver en Raphaël son artiste.
Et on peut dire que c'est peut-être Raphaël qui aura le plus marqué, en tout cas dans tout ce qui est appartement, dans tout ce qui est décor privé.
C'est extraordinaire. Ouais. Encore une fois, les chambres du Vatican qui jouxtent d'ailleurs la chapelle Sixtine, qui crée d'ailleurs un boulot d'étranglement quand on visite le Vatican, puisqu'on a les deux grands lieux qui sont juste l'un à côté de l'autre. Et les quatre chambres du Vatican sont ces appartements absolument magnifiques. Raphaël a surtout réalisé les deux premières salles, puisque comme toujours, par la suite, Raphaël délègue à ses élèves et laisse un peu travailler son atelier.
Alors Jules II avait eu cette espèce de folie des grandeurs, il avait fixé lui-même les dimensions de la basilique Saint-Pierre qui sera ensuite achevée, parachevée à l'époque baroque. Ça nous ramène à un personnage dont on parlait ensemble il n'y a pas si longtemps, c'est Bernin,
c'est
bien
Bernin.
Entendu.
Et là Bernin, alors c'est le pape,
oui on pourrait le dire d'une certaine manière.
Pardon, c'est l'artiste par excellence du baroque, c'est lui qui travaille pour les grands papes de l'époque, entre autres Urbain VIII qui est vraiment le mécène par excellence de l'art baroque. C'est lui qui va faire aménager, entre autres, le fameux baldaquin de Saint-Pierre sous la coupole dite de Michel-Ange. Là aussi, tout s'enchaîne.
Ce qui est assez étrange, c'est qu'on peut dire que sur un plan artistique et architectural, la grande époque du Vatican, c'est du 15e au 17e siècle.
Sans aucun doute.
Or, la papauté elle-même va devenir d'autant plus puissante que sur un plan, mettons, plus spirituel, au 18e, surtout au 19e siècle, on a l'impression qu'elle a un peu abdiqué son rôle de mécène à ce moment-là.
Oui, il y a un véritable changement. On peut dire que les commandes sont moins fastueuses. Il n'y a plus du tout, dès la fin du 17e, il y a vraiment une sorte de coup d'arrêt. Les grands papes du baroque que l'on venait d'évoquer, comme Urbain VIII, après cette période, il y a une sorte d'arrêt, encore une fois. D'ailleurs, les centres de création du baroque quittent Rome. C'est assez révélateur. On peut vraiment dire que fin 17e, début 18e, le baroque trouve un nouveau souffle en Autriche, à Prague, dans l'Allemagne catholique également, en Bavière. Mais Rome a un petit peu perdu ce rôle fastueux qui était le sien. Et c'est vrai que si la papauté connaîtra encore de grandes figures sur un plan spirituel, elle n'aura peut-être plus le même rôle de mécène.
Alors, vous ne vous en êtes pas tenu à l'art dans ce dossier spécial que Détour en Histoire consacre au Vatican, hein, Raphaël Pic. Vous abordez bien d'autres sujets, des sujets qui sont aux marges de l'art. Je pense à la question des castrats, par exemple.
Oui, alors c'est vrai que tout le monde a vu, enfin, ou beaucoup de gens ont vu le film Farinelli qui raconte l'histoire d'un castrat. Et ce qu'on a voulu rappeler, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, chantait à la chapelle Sixtine des castrats. Puisque les états du pape sont passés à l'Italie en 1870, le pape s'est considéré prisonnier dans le Vatican, et des gens qui sont nés dans les années 1850 près de Rome dans les états du pape pouvaient encore subir cette opération d'enlèvement de la virilité pour chanter donc comme des enfants, mais avec une cage thoracique beaucoup plus ample. Et jusqu'en 1903 exactement, des castrats chantés, et on a des enregistrements de Moreschi, qui est le dernier castrat.
Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas le CD avec.
Vous auriez pu le passer en jingle.
Et c'est assez spectaculaire. Or, vous évoquez bien entendu la question du tombeau de Saint-Pierre, qui est fondatrice, là, on peut le dire.
Absolument. Mais là, les doutes encore demeurent. Est-ce vraiment la tombe de Saint-Pierre ou pas? Les archéologues pensent l'avoir trouvée, mais certains disent, n'en sont pas convaincus.
Au-dessus du tombeau présumé de Saint-Pierre, il y a évidemment cet extraordinaire, on est sur le cœur de Saint-Pierre de Rome, cet extraordinaire portique qu'on appelle le baldaquin.
Le baldaquin qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de Bernin. C'est l'idée même. Imaginez que ce baldaquin de bronze fait la hauteur d'un palais de la Renaissance. C'est absolument colossal. Et c'est d'ailleurs une sorte d'apothéose décorative dans le cœur même de ce qui représente la puissance, c'est-à-dire la tombe de Saint-Pierre. Et évidemment, placer ce baldaquin sous la coupole au-dessus de la tombe de Saint-Pierre, c'est une symbolique très forte pour le monde catholique.
Avec un double scandale à l'époque, puisque ça mettait en danger d'anciennes sépultures des tout premiers chrétiens, d'une part.
C'est tout à fait extraordinaire, puisqu'en fait, quand le baldaquin a été réalisé, Bernin avait très très peur que les fondations du baldaquin soient trop fragiles. Et donc, il a créé des fondations extrêmement profondes, ce qui fait que ces fondations ont détruit des tombes des premiers chrétiens qui avaient voulu être enterrés autour de la tombe de Saint-Pierre. Donc c'est un grand scandale, puisqu'évidemment on détruit des tombes des premiers chrétiens. Deuxième scandale, il fallait le bronze.
Et, voilà.
Et là, on n'hésite pas à prendre une partie du décor du Panthéon de Rome. Et c'est la fameuse phrase que je traduis en français, qui est une phrase latine, qui dit que ce que les barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait, puisque Urbain VIII est un pape de la famille Barberini.
Alors vous évoquez également, Raphaël Pic, les scandales plus récents, bien entendu, notamment les scandales financiers du Vatican. Ça fait partie de l'histoire aussi, après tout.
Absolument, avec Monseigneur Marcinkus, un personnage haut en couleur. Mais ce qu'on veut montrer, c'est que derrière le Vatican qu'on connaît avec le pape à sa fenêtre, il y a un Vatican beaucoup moins connu. Il y a une gare au Vatican, on ne le sait pas forcément, qui a été utilisée.
Vous montrez des matchs de foot aussi. Là,
il y a une coupe de foot qui est la Clericus Cup, qui oppose des équipes de séminaristes du monde entier. Il y a un supermarché, il y a une pharmacie, il y a des stations-service où l'essence est moins chère qu'à Rome. Encore faut-il avoir l'autorisation de l'acheter. Donc voilà, le Vatican, c'est à la fois ce que l'on connaît et c'est encore une partie cachée que nous avons voulu mettre en avant dans ce numéro.
en privilégiant bien sûr un certain nombre de clichés très forts. Je disais tout à l'heure que les décors anciens du Vatican s'alliaient assez bien à la pompe de l'église romaine. D'une façon générale, on peut dire que tout ça est très photogénique. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est un peu comme la monarchie britannique. On dirait que ça a été fabriqué pour être photographié d'une certaine manière.
Ou filmé, puisqu'on a vu également le film de Nanni Moretti qui est assez juste sur un pape qui hésite.
Habemus Papam.
Absolument.
Avec un Michel Piccoli extraordinaire.
Voilà, et dans un décor magnifique.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces 2000 ans d'histoire secrète. Vous parlez aussi des archives dites secrètes, hein, même si c'est un peu un jeu de mots sur le terme secret.
Pas secrètes, qui sont les archives personnelles
voilà,
du pape,
c'est ça,
en fait, qui sont ouvertes aux chercheurs.
Oui, et ces archives, elles recèlent un certain nombre de trésors dont vous nous parlez aussi. Donc tout ce dossier qui parle également de la question de Galilée, qui revient sur la légende noire des Borgia, j'aurais aimé qu'on en parle davantage, mais on n'a pas eu le temps. Bref, tous ces aspects étranges et passionnants et mystérieux du Vatican sont dans ce numéro de Détour en Histoire. Merci beaucoup Raphaël Pic, merci Serge Lega. On a moins parlé d'art que d'habitude, mais comme d'habitude, quel que soit le sujet, vous êtes incollables.
Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Élise. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait que vous reveniez sur l'expression « le tour du Saint-Cordon », une expression selon Élise très populaire dans la région de Valence.
Oui, on dit, paraît-il, à Valenciennes, on est donc là-haut, dans le nord, c'est le tour du Saint-Cordon, comme on dirait un peu nous, c'est la croix et la bannière. Vous voyez, c'est difficile, ça évoque des difficultés, des entraves, si vous voulez, d'une certaine manière. Alors ça vient d'une manifestation qui se déroule à Valenciennes chaque année depuis le Moyen-Âge, la célèbre procession de Notre-Dame du Saint-Cordon. En 1008, la peste ravage la ville, les habitants implorent la Vierge Marie de leur venir en aide, et le dernier jour du mois d'août, un moine ermite reçoit une visite de la Vierge. Elle demande à ce moine de regrouper les habitants sur les remparts, et quelques jours après, 15 000 personnes se pressent sur les remparts et les tours de la ville, et c'est alors que se produit une apparition, les ténèbres disparaissent, une reine auréolée apparaît à accompagnée de nombreux anges, elle tient un cordon écarlate et elle demande aux anges d'entourer la ville et ses faubourgs de ce cordon qui va donc protéger, si vous voulez, la ville. Depuis, on fait donc une procession très célèbre. Depuis 1892, Notre-Dame du Saint-Cordon est la patronne officielle de la ville de Valenciennes. Alors la procession est longue, elle fait une dizaine de kilomètres avec toutes sortes d'arrêts, etc. C'est un véritable chemin de croix, si je puis dire. On brandit bien sûr une statue de la Vierge qui pèse 108 kilos. Bref, vous imaginez les impédimenta.